beaucoup d'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 16 décembre, il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure des informations.
Avec ce soir, tout de suite en Turquie, en ce moment même, une grosse opération est en cours contre le PKK dans tout le sud-est du pays.
Ensuite, on va parler d'une manifestation pro-kurde qui dégénère.
Coalition de pays musulmans contre Daesh.
Ensuite, on va parler d'une tentative de piratage sur des comptes Twitter.
À Toulouse, un bailleur social fait tout pour expulser des réfugiés syriens.
Ensuite, on va parler de logement.
On parlera de sondage.
Et ensuite, on passera à la rubrique « Il faut que ça se sache ».
Au Kurdistan turc, en ce moment même, une vaste opération de nettoyage est en cours, ça dure déjà depuis hier. D'importants effectifs de l'armée, alors il serait 10 000, c'est selon la presse turque, et des forces spéciales de la police ont investi plusieurs villes, sur ce coup-ci visiblement c'est les villes et non pas comme à plein d'autres moments les campagnes et les montagnes. Donc plusieurs villes du sud-est, c'est-à-dire le Kurdistan en gros.
Mais quand tu dis nettoyage, c'est nettoyage de quoi? Parce que c'est nettoyage pas à la Javel j'imagine.
C'est le nettoyage du PKK. Les villes dont je parle sont des villes qui sont par ailleurs soumises au couvre-feu depuis un moment, et notamment cette ville de Cizre dont on avait pas mal entendu parler il y a quelques mois, là où il y avait eu un couvre-feu, et déjà à ce moment-là il y avait eu des batailles à l'intérieur de la ville avec déjà des morts. Et donc voilà, Cizre, la ville de Silopi, Diyarbakir qui est quand même du coup là vraiment la capitale du Kurdistan, Nusaybin et Dargechit. Ces villes sont le théâtre de violents combats du coup depuis hier entre l'armée et de jeunes partisans du PKK, ce qui veut dire pas non plus les troupes du PKK mais plutôt des jeunes militants urbains quoi, qui sont pas dans les montagnes. Ouais. Des quartiers entiers de ces villes sont transformés en zones de guerre. Des habitants de Silopi et Gizré qui ont été joints ce matin par l'AFP parlent de chars de l'armée à l'intérieur de la ville, d'explosions, de colonnes de fumée, etc. Selon l'agence de presse Firat News, qui est une agence de presse plutôt pro-kurde, un enfant de 11 ans aurait été tué au cours de l'opération à Gizré. Alors cette information n'est pas confirmée officiellement par la Turquie. Et par ailleurs, ce qui par contre là est confirmé et même claironné par le commandement militaire turc, c'est que 8 membres du PKK ont été tués par les forces de sécurité à Cizre. Alors bon, bah, pour recontextualiser vite fait, hein, mais après plus de 2 ans de cessez-le-feu, les combats ont repris l'été dernier entre la police, l'armée et le PKK. Ils ont fait de nombreuses victimes depuis. Là, 3 flics ont encore été tués et 3 autres blessés hier dans la ville de Silvan, dans une attaque à l'explosif qui est attribué au PKK et qui a visé un véhicule blindé. La veille, donc lundi, 2 jeunes manifestants étaient morts, tués par balle lors d'affrontements avec la police, alors qu'ils dénonçaient le couvre-feu qui est en place depuis le 2 décembre dans le district de Soul, ce qui est juste un quartier de Diyarbakir. Sur la lancée de la victoire de son parti aux législatives du 1er novembre, le président Erdogan a réaffirmé sa volonté d'éradiquer, c'est ces mots, le PKK. Et aujourd'hui, le Premier ministre Ahmet Davutoğlu nous a annoncé que la lutte que nous livrons à Sur, à Cizre et à Silopi se poursuivra sans faiblir jusqu'à ce que chaque élément terroriste soit éliminé de notre belle patrie.
Ah, t'as peut-être pas bien prononcé, il a dit éradiquer et c'est ces mots, c'est bien les mots d'Erdogan. C'est ça que t'as dit.
Et c'est bien
tout
quoi.
À fait.
Ouais, oui, oui, ah oui.
Et on va parler d'une coalition de pays musulmans contre Daesh. Donc,
absolument
pas tout
pas.
De suite.
Tu as encore voulu me griller ma place comme ça t'arrive souvent. Non, on va parler suite en fait à justement tout ce qui se passe en Turquie concernant Erdogan et le PKK. Une manifestation à l'intérieur des frontières de ce pays qu'on appelle la France. Manifestation qui a été interdite la veille, c'était aujourd'hui, hein, interdite la veille par la préfecture. Cette manifestation pro-kurde, pointant du doigt les répressions du gouvernement turc, a finalement eu lieu ce mercredi à Draguignan. Et selon Nice France, elle a eu lieu, je cite, « dans la violence ». Alors lors du défilé...
Selon Miss France ?
Non, Nice...
j'ai dit
Nice
aussi
France.
J'ai compris Miss France.
J'ai dit Nice France, mais c'était Nice matin en plus. Excusez-moi, bon, on va chauffer. Donc lors du défilé, des échauffourées se sont produites, au cours desquelles un commissaire de police a été blessé. Alors de tous les médias qui relaient cet événement, aucun ne donne de détails sur la manière dont ce rassemblement s'est musclé, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien à battre, de toute façon. Les flics ont tous les droits, et bonne presse pour quelques mois encore, et ce quoi qu'ils fassent. Donc toutes les éditions sous-entendent largement, sans relater, que c'est forcément de la faute de la manif. C'est tout de même pas la police qui serait responsable. En tout cas, en fin de journée, le maire de Draguignan, Richard Strambio, ne décolérait pas et déclarait cette portée partie civile contre les organisateurs. Car, outre la situation d'urgence, en ville se déroulait le marché de Noël et le regroupement de l'ensemble des enfants et parents des employés de la commune et de la communauté d'agglomération, ce qui était susceptible de mettre en danger la population. Et oui, vous l'aurez bien remarqué, donc l'état d'urgence interdit le rassemblement politique contre la COP21, Erdogan ou les manifs de Mégrand par exemple, mais protège ces temps-ci l'esprit de la fête de Jésus, les processions des saints ou de la Vierge et le business de Noël dans les petits marchés extérieurs à travers la France où pullulent les petits chalets en bois. Ce qui m'évoque une sacrée bonne question. Les rassemblements de ce type seraient-ils moins les cibles de potentiels terroristes ou l'état d'urgence serait-il principalement utilisé pour faire taire les voix discordantes? Voilà vraiment une sacrée bonne question.
Et t'as oublié les matchs de foot. Qui, tu vois.
En même temps, les ultras, ils prennent cher, là.
Et voilà, donc, je vais parler de la coalition. Alors, c'est l'Arabie Saoudite qui a formé une coalition militaire, donc de 34 pays musulmans pour lutter contre Daesh, mais aussi contre le terrorisme islamiste en général. Donc l'annonce de cette coalition semble être une réponse, en tout cas aux États-Unis, qui réclament davantage d'implication des pays du Golfe dans la lutte contre le terrorisme. Et alors, pour... bien mener et gagner cette guerre, la France et les États-Unis doivent nécessairement s'appuyer sur l'implication des autres États européens, mais aussi globalement du monde entier. Donc l'ONU, elle avait demandé aux États membres de coordonner leur action contre l'État islamique. Donc ça s'est fait fin novembre, et d'éliminer son sanctuaire, ça c'est une citation, d'éliminer son sanctuaire en Irak et en Syrie. Vu que la France et les États-Unis et l'essentiel des pays occidentaux ont exclu toute intervention au sol, ben fallait bien trouver des personnes pour s'y coller. Et là, donc cette intervention ensemble semble nécessaire pour venir à bout de Daesh. En tout cas, il y a énormément de gens qui connaissent beaucoup mieux que la situation en Syrie qui le disent. Et aussi afin de minimiser la mort des Syriens, des civils là-dedans. Et sauf que bah du coup, comme ils veulent pas y aller, il faut bien trouver d'autres gens pour s'y coller. Et et aussi un des autres arguments, c'est que la guerre contre l'État islamique, contre Daesh, ne doit pas être menée exclusivement par des forces armées occidentales, parce que ça accréditerait la thèse de la croisade qui profiterait également à Daesh. Donc, il faut trouver un stratagème pour impliquer des forces armées de pays islamiques, pour donc infirmer la guerre des civilisations théorisée par l'État islamique. Il faut aussi que ça soit des personnes sunnites qui aillent se battre pour éviter d'attiser le conflit chiite-sunnite et pour qu'elles aillent au bourbier, donc cette intervention terrestre exclue par les États occidentaux. Donc, les bénéfices de toutes ces considérations... un État ne saurait être plus impliqué que l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite abrite la Mecque et la Médine, deux lieux hautement symboliques pour la Oumma, pour donc diriger cette coalition islamique contre le terrorisme. Et en prenant la tête de la coalition, Riyad veut aussi résoudre une triple équation, donc asseoir son leadership dans le Moyen-Orient contre son éternel ennemi l'Iran, faire passer sous le silence les nombreuses pertes en vie humaine dans sa guerre contre le Yémen, et enfin éradiquer Daesh, c'est sauvegarder sa monarchie. Donc l'État islamique est certes une organisation musulmane sunnite, mais il a dans sa ligne de mire les autorités de la monarchie saoudienne qu'il considère comme des pantins de l'Occident, ce qui est quand même plutôt vrai. Bref, aussi ce qu'on peut dire, c'est que cette coalition, donc on voit, elle est aussi pas mal hypocrite, puisque la Turquie, elle fait partie de cette coalition. Bref, on peut dire rapidement que Erdogan, président turc, a un double visage, puisqu'il, d'une manière indéterminée, de ma papa indéterminée, non directe, il finance Daesh, puisqu'il paye, il récupère le pétrole que Daesh vend
via la Syrie.
Via la Syrie, par camion entier, à énormément de... à l'État turc. Voilà.
Alors, Twitter a averti certains de ses utilisateurs d'une tentative de piratage sur leur compte. Alors, certains utilisateurs et utilisatrices ont pu voir ce message. Par mesure de précaution, nous souhaitons vous informer que votre compte Twitter fait partie d'un petit groupe de comptes ayant fait l'objet d'un ciblage de la part d'agents commandités par un État. Nous pensons que ces agents, qui sont peut-être associés à un gouvernement, ont éventuellement essayé d'obtenir certaines informations telles que des courriels, des adresses IP et ou des numéros de téléphone. Bon, après, le message continue, mais je vais m'arrêter là. Twitter précise qu'il n'est pas sûr que ces pirates aient eu accès à ces informations, mais toutes les personnes qui ont reçu ce message ont un point commun. Ce sont tous et toutes des défenseurs de la vie privée, de sécurité informatique et de chiffrement. Pour certains, ce sont des journalistes ou des chercheurs qui bossent sur ces sujets, un autre de leurs points communs, c'est que tous et toutes utilisent le réseau Tor. Alors, on n'en sait pas vraiment plus pour l'instant, mais Twitter mène l'enquête pour savoir d'où vient l'attaque et on espère avoir la réponse de quel gouvernement il s'agit assez rapidement. En tout cas, Tor, en ce moment, est pris pour cible de toutes parts, avec bien entendu...
Peut-être tu peux rappeler un petit peu pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Tor.
Oui, le réseau Tor. Alors le réseau Tor, c'est, ça fait partie en gros des outils qui permettent d'anonymiser sa connexion Internet. Voilà, c'est dans un large panel, mais voilà, ça permet de surfer de manière anonyme et sécurisée, en gros. Donc voilà, donc c'est bien pour ça qu'il est la cible de tout ça. Et bien sûr, il y a les historiques comme la Chine, la Corée du Nord, la Turquie, etc., etc. Et depuis les attentats de Paris, et ben, du côté du ministère de l'Intérieur, ça commence à évoquer l'interdiction de l'utilisation du réseau Tor. Bon, ça, on sait pas vraiment comment ils vont le mettre en place, à part en le bloquant auprès des fournisseurs d'accès à Internet, mais voilà. Et comme le gouvernement veut tout savoir sur tout le monde, Tor fait bien évidemment partie de leur cible, même si en réalité je pense bien que plein de personnes du gouvernement l'utilisent à différents niveaux, mais l'anonymat c'est comme les dimanches fériés, oui pour moi mais pas pour les autres.
Alors il y a quand même une petite solution un peu technique pour être vraiment dans être purement privé dans ce que tu fais au niveau d'Internet, c'est d'utiliser un système d'exploitation libre. On pense à Linux, donc c'est plutôt du monde libre, et également d'utiliser ce qui s'appelle un Virtual Private Network, VPN. En gros, tu te connectes sur une machine n'importe où, et en fait c'est cette machine-là qui interroge les sites web ou qui interroge à droite, à gauche. Et donc en fait, ce qui est vu par exemple par Adopi, ou ce qui est vu par tout autre organisme qui sniffe un petit peu le réseau, eh bien ce qui est vu, c'est que tu es tout le temps connecté au même site. Voilà. Donc ça peut être pratique. Et c'est purement légal.
Mais c'est un peu ça qui a attaqué par Tor, puisque du coup Tor c'est une succession de VPN finalement. Du coup je pense que le VPN...
Ça rajoute une couche... Bon, ça ralentit un peu, pas mal la connexion, mais ça rajoute une couche de sécurité.
Et on peut rappeler quand même que ça a été inventé par l'armée américaine à la base, donc de toute façon ils l'utilisent, c'est sûr.
Mais c'est des gens très très chouettes hein, qui s'en occupent par contre.
Une avocate toulousaine a sollicité l'État en lui demandant de réquisitionner un immeuble du quartier des Isards à Toulouse. Un immeuble qui est destiné à la démolition où des dizaines de familles de gens, de personnes qui ont fui la Syrie sont installées depuis plusieurs mois. Cette avocate, qui s'appelle Agnès Cazero, a écrit à la préfecture de Haute-Garonne et au Premier ministre en demandant la réquisition pour 15 mois de ce bâtiment qui appartient au bailleur social Habitat Toulouse. Décidément, les bailleurs sociaux sont quand même des grands expulseurs de squats. Bon, parce qu'à Lyon, ça se fait pas mal aussi. Début septembre, Habitat Toulouse a engagé une procédure d'expulsion. Et cette procédure concerne aujourd'hui 22 familles, mais le procès devant le tribunal d'instance a été repoussé 3 fois. Il devrait finalement avoir lieu le 8 janvier prochain. La préfecture a indiqué aujourd'hui qu'elle avait bien reçu le courrier. Alors l'avocate dit « Je pensais qu'il y aurait un terrain d'entente amiable avec Habitat Toulouse. Là, ça se passe plutôt avec brutalité. » Elle parle dans sa lettre d'un besoin impérieux des familles à un peu de stabilité. Elle estime que Toulouse Habitat use et abuse de son droit de propriété et elle souligne la présence de vigiles et la destruction d'appartements dès que les tout derniers locataires de l'immeuble sont partis. Du coup, à ce moment-là, Habitat Toulouse a envoyé des gens pour exploser les appartements pour être sûr que personne n'y habite. Depuis l'automne, la préfecture a commencé une procédure de relogement pour les familles syriennes qui sont dans cet immeuble, mais sur les 170 personnes qui avaient été recensées en octobre, les services de l'État disent qu'ils ont pour l'instant relogé 20 familles, c'est-à-dire 109 personnes. Alors on pourrait se dire il n'en reste donc que 61, mais c'est quand même mal connaître ce qui se passe quand des appartements sont vides et des gens sont à la rue. Et donc, selon le directeur de cabinet du préfet, force est de constater que malgré les départs, il y a des arrivées nouvelles. Le président d'Habitat Toulouse, un monsieur Biasotto, a refusé de transformer l'immeuble en centre de demandeurs d'asile, en CADA, ce qui était une revendication de l'association Droit au Logement. La démolition du bâtiment, c'est un vieux bâtiment qui date des années 60. La démolition avait été décidée en 2014 dans le cadre de la politique de la ville. Bon, c'est pas du tout qui va tomber sur la gueule de ses habitants, hein, c'est qu'il ne répond pas aux normes phoniques et thermiques. Alors, c'est sûr, mais bon, en même temps, entre ça et la rue, peut-être il vaut mieux avoir le bruit des voitures un peu atténué par des murs même de qualité un peu pourrie, plutôt que de dormir dehors, quoi. Monsieur Biasotto reconnaît quand même que ses équipes ont démonté les fenêtres et coupé les réseaux d'alimentation et muré les appartements qui avaient été vidés de leurs locataires. Ce qui a été convenu avec la préfecture, dit-il, le but n'est pas de les mettre à la porte, mais bien de trouver une solution pérenne. Il y a des gens qui ont une conception chelou de la solution pérenne.
Qu'un maire, à part, assassin et austère. Quand tu nous vois partir, y'a toujours du sang par terre. Le N, tu le prends, tu rajoutes que de là devant. Il signifie aussi négatif et nerf. Naturellement, F, parce que notre musique fait frissonner. Froid dans le dos, fusil des broussards. Et elle porte le brassard des marginaux. Encore A pour aigre, ardent. Pour art de tuer les gens qui badinent avec notre argent. Définition du L, l'habitation des lopettes par les laissés pour compte. Tu te la racontes depuis trop longtemps. On va te baisser, petit con. S comme Schlass, surin, sulfureux sur un pied de rappeur. Un sur deux sont des acteurs, même s'ils ont l'air sur deux. Pour ce qui est du H, hardcore écoute H. Quoi qu'un gros poisson, on va te pêcher au harpon. Non, t'as pas ce qu'il faut dans le caleçon grand. La menace en face, excelle dans l'art du scalpel. Elle s'appelle en patch.
Je rêve d'une réelle guerre idéale, où les frères sortiraient des halls direction les halles. Et on serait bien plus de 50 000 en centre-ville à traiter la police comme une bande rivale. Et ces troupes pâles appelleraient en chiant dans leur peine l'armée afin de gérer cette guérilla urbaine. Mais que peuvent des chars et des balles contre autant de rebelles lâchés dans toutes les rues de la capitale? Et ça sentirait le sang et la chair des cochons qu'on aurait écorchés au pied des portes cochères. Et ils compteraient leur mort tout en appelant leur mère, en refusant de mourir pour une paye de fonctionnaire. S'ils pensent contenir la colère qui débarque par container des métros, bus et RER, laisse-moi rire. Ces sales porcs se croient tous forts. Mes frères, un seul martyr peut briser
leur empire. Vous venez d'écouter En Falche.
Voilà, on reste dans cette thématique des logements sociaux. On va peut-être s'écarter juste pour ouvrir un petit peu le débat hors des frontières françaises ou européennes. On va aller du côté du Mali avec un message qui vient de tout juste aujourd'hui du collectif des demandeurs de logements sociaux du Mali, qui en a appris le Premier ministre Modibo Keïta, voilà, pardon, j'ai perdu une partie de la page, puisque lui, il s'est attribué 6 logements sociaux à Ntaba Koro, donc pas vraiment à lui, mais à sa famille, en particulier à sa femme et à ses 5 enfants. Donc il y a une protestation qui est en cours, et on voit que quand même cette idée de soulager les familles qui sont sans revenus ou en manque de revenus, par des logements un petit peu sociaux, ça se voit de tous les côtés, en particulier au Mali. Alors, un autre article qui date d'il y a quelques mois et qui évoque un petit peu les dernières élections. Vous vous rappelez Claude Bartolone, ça vous dit quelqu'un, quoi? Alors, on a vaguement entendu qu'il avait loupé, les élections parce qu'il était trop à gauche, en fait. Voilà, moi j'ai entendu ça. Voilà. Il y a des gens qui ont dit ça. Alors, je vous dis quand même, c'est sa suppléante de Claude Bartolone, qui s'appelle Corinne Valls, qui est la maire de Romainville. Alors elle a mis dehors la famille Diassigui, c'était en septembre 2015, donc ça date un petit peu. Donc c'était une famille qui avait des problèmes d'impayés, puis qui avait finalement réussi à recommencer à payer, voilà. Mais c'est pareil, c'est Habitat, donc Romainville Habitat, qui a considéré que trop c'était trop, et puis qui a téléphoné aux forces publiques. et qui sont venus en masse. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a la vidéo de l'expulsion qui est assez éloquente, où on voit quand même une quinzaine de CRS qui arrivent et qui foutent tout le monde dehors. Alors il y a eu des protestations des voisins, il y avait les militants du DAL local évidemment qui étaient présents, et voilà, donc c'est des gens qui sont dehors et qui habitent actuellement chez des voisins. C'est un petit peu des histoires qui ont lieu un peu tous les jours, je suppose, peut-être moins pendant la trêve hivernale, mais là c'était un petit peu comique puisque ça évoquait notre cher ami Claude Barthelon. On se décale de l'autre côté de la Manche avec du côté de Stratford. C'est un quartier dans l'est de Londres. Alors, juste petite info quand même, l'est, c'était un peu la partie un peu plus pauvre de Londres, et en général l'est des grandes villes c'est toujours un peu plus pauvre parce qu'à l'époque il y avait le charbon, enfin disons à l'époque de la fumée de charbon,
les émanations, ouais.
Voilà, il était poussé par les vents océaniques du côté de l'est, et donc en fait les pauvres se ramassaient les odeurs de charbon. Bon, c'est toujours c'est sympa à savoir, quoi.
Voilà. Prérogative de l'Europe, ça.
Ouais. Alors du coup, si tu vas au métro Stratford, donc par là-bas, tu peux tomber sur trois immenses tours HLM qui sont un petit peu paradoxal, parce qu'alors elles sont très grandes, elles peuvent accueillir 700 familles, et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elles sont vides. Elles sont presque vides, et pourtant il y a 250 000 familles à Londres qui sont sur une liste d'attente pour avoir des logements sociaux. Alors il y a le journaliste là qui est allé voir le gardien de nuit, qui lui a demandé un petit peu c'était quoi cette histoire. Alors lui, il a une maigre explication. Il dit qu'en fait 80% de l'immeuble est inoccupé, mais qu'il y a quand même certains habitants qui sont encore là, c'est ceux qui ont acheté les appartements pendant les périodes Thatcher, dont on parlera tout de suite après. Ça aurait dû être détruit pendant les Jeux Olympiques, puisque en fait, pendant ces Jeux Olympiques, il y a eu une grande campagne à Londres de « je vous prends, je vous déplace très très loin ». Voilà, ça s'appelle déplacer les habitants.
C'est surprenant ça pour les Jeux Olympiques.
Ouais, c'est quand même formidable les Jeux Olympiques, et ça permet aussi ce genre de petits détails. Donc ces trois tours HLM, elles avaient surgi des ruines 20 ans après les raids aériens de la guerre, et donc c'est entre guillemets, elles offraient aux familles ouvrières des logements bon marché et décents. Donc c'était vraiment le but. Et puis il y a eu Margaret Thatcher, que l'on aime très très fort ici à Radio Canu, eh bien, elle a décidé de dire que voilà, les HLM, il fallait les faire disparaître du giron étatique. Et elle a sorti un nouveau droit. C'est bien les droits. Hein. C'est le droit d'acheter son logement. Donc c'est vraiment sa mesure phare de la révolte libérale.
Ça lui ressemble assez. Hein.
Ouais. Alors il y a 2 millions de logements sociaux qui ont été bradés au secteur privé à partir de 1980. Et du coup, les Britanniques ont payé le prix. Il y a 5 millions de Britanniques qui sont sur les listes d'attente pour décrocher les HLM. Alors, je ne vais pas m'éterniser, hein, mais juste pour vous parler encore de Stratford, 27% des enfants grandissent au-dessus du seuil de pauvreté. Et l'idée, alors, c'est pas tout à fait fini l'histoire, c'est de quand même de régénérer des quartiers. Voilà. Alors, régénérer, c'est les autorités locales de Londres qui vous le disent. En fait, elles trouvent que ce serait quand même pas mal de déplacer des centaines d'occupants loin du centre-ville ou en province, voilà, pour pouvoir permettre de construire des coquets appartements à des endroits où le prix du mètre carré est pas hyper cher, parce qu'à Londres, il faut savoir que c'est vraiment très très cher. Ça sera la conclusion de ce papier. Donc, dans le quartier populaire de Elephant and Castle, par exemple, eh bien, il y a 3000 logements sociaux qui ont été détruits. Alors, on prend un petit exemple. Le développeur immobilier Lendlease, pas ce que ça veut dire, hein, c'est la propriété d'un millionnaire australien. Alors lui, il les a remplacés par 2535 appartements, ouvrez les guillemets, offrant un nouveau niveau de sophistication et de luxe informel. Voilà. Et alors, dernière nouvelle.
Luxe informel.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors, dernière nouvelle, les trois tours HLM dont je vous ai parlé, elles devraient être rachetées par une prestigieuse université du côté de Londres. Alors, juste pour conclure un petit peu.
L'université ?
Ouais, parce que il faut que tu saches que les universités, y compris en France, mais beaucoup du côté de l'Angleterre, c'est la World Company, et donc elles essaient d'investir pour avoir des brosoufs, tu vois. Et vu que, on en parlera après, investir dans l'immobilier à Londres ou ailleurs, c'est un truc pour avoir un max de brosoufs, un petit peu comme investir pour, tu prends des énormes stocks de riz, tu les gardes pendant 2 ans dans tes hangars, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, mais par contre le prix du riz augmente, c'est un peu la même technique. Voilà, c'est toujours très classe. Donc, les familles les plus touchées, a priori, ce sont des mères célibataires qui sont lourdement dépendantes des allocations sociales. Donc ça, c'est une militante qui nous explique ça. Et visiblement, les municipalités les forcent à déménager en province ou en périphérie au prétexte qu'il n'y a pas assez de place. Bref, vous pouvez retrouver cet article sur cet excellent article sur le site Bastamag. Juste pour conclure quand même, avec les dires de l'agence Knight Frank, Je sais pas ce que ça veut dire non plus.
Non plus. Voilà, non, regarde pas comme ça, je
ne peux pas le Frank Knight.
Le meilleur en anglais, là. Voilà.
Et il a dit dans une publicité pour ses nouveaux appartements de luxe que le retour, c'est important parce que ça peut vous intéresser, je pense, le retour sur investissement londonien est meilleur que l'or et le FTSE 100, qui est l'indice boursier des grandes entreprises britanniques. Voilà. Donc, c'est vraiment super d'exfiltrer un petit peu les couches populaires. Donc assez loin, en province par exemple, même si la province c'est très bien, et puis de pouvoir racheter, et puis que le secteur privé s'en mette plein les fouilles. Voilà, je termine sur le thème logement.
Je voulais juste dire un autre retour sur l'investissement qui était pas mal, puisque je crois que c'était aujourd'hui ou hier, où il y a une valise à Thatcher justement, qui a été vendue, je crois, plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Alors, est-ce qu'elle a été vendue pour la brûler? Parce que moi j'aurais pu...
Non, non, totalement... c'était chez Christie's, alors ça m'étonnerait. Ouais.
Voilà, bon, on a qu'à monter un crowdfunding pour acheter cette valise et on la brûle. Bref, on fera ça le 1er mai. Juste pour parler Royaume-Uni, vite fait, hein, dans CQFD, il y a des articles qui datent de mois d'avril, cet excellent journal CQFD qui parle du Royaume-Uni. Voilà. Je voulais juste terminer. En Europe, il y a près de 11 millions de logements vides. C'est une association qui a sorti ce chiffre-là il n'y a pas très longtemps. 11 millions de logements vides, et ils sont vides non pas parce qu'il n'y a personne pour y habiter dedans, c'est juste parce qu'il y a des gens qui spéculent. Donc ils terminent leur papier en disant ces solutions, les solutions qu'ils proposent, donc de laisser les gens habiter là-dedans, et ben c'est tout ça, c'est insupportable aux spéculateurs immobiliers qui tirent profit de la privatisation et de la vente de pans entiers de nos villes et de notre patrimoine commun. Voilà.
La CFDT a annoncé aujourd'hui qu'elle ne signerait pas le projet d'accord de branche sur le travail dominical dans les grands magasins. La CFDT ne signe pas
c'est dingue.
Un
c'est
accord surpris, avec le patronat.
Parfois. Ils ont été amputés ou quoi?
ils ont perdu leur stylo. Et le fait que la CFDT ne signe pas, ça fait que le texte ne va pas passer puisqu'il a déjà été rejeté par la CGT et FO.
Ah bah voilà, et c'est peut-être ça la raison. Voilà, enfin, déjà rejeté,
oui, non mais bon.
Ça les a jamais empêchés de signer.
c'est ça. La CFDT ne sera pas signataire de l'accord qui a été soumis hier aux organisations syndicales par l'Union des grands commerces de centre-ville. Donc le patronat, hein, ça veut dire. Mais elle reste ouverte à toute négociation sérieuse.
merde.
Mais c'est ce qui s'appelle le courage, quoi.
Voilà. Et bah oui, les syndicats ont tous, de toute façon, jusqu'au 23 décembre pour décider si oui ou non ils signent. Alors voilà, pour l'instant, ils ne signent pas, mais rien n'est perdu quand même.
Le 23 décembre, c'est chaud.
En tout cas, il y a une histoire de 30% de je ne sais quoi qui sont vraiment nécessaires pour que cet accord puisse passer. Et si la CFDT persiste dans son refus peu constructif, et ben, les 30% ne seront pas réunis. Alors pour l'heure, la CFE-CGC et la CFTC n'ont pas encore fait connaître leur position sur le texte.
La CGT et FO, pas, je ne sais plus dans quel monde
sont, quoi qu'il arrive, en mesure de faire valoir leur droit d'opposition puisqu'elle représente 56,44% des voix aux élections professionnelles. Pour expliquer sa position, la CFDT mentionne dans un communiqué, donc datant d'aujourd'hui, la création d'une, ouvrez les guillemets, catégorie de travailleurs embauchés avec une obligation contractuelle de travail dominical et avec moins de droits. Le refus de tout geste pour deux tiers des salariés concernés, à savoir les personnels de la démonstration, les prestataires et les sous-traitants. Le syndicat évoque aussi l'exigence de l'UCV. Donc l'UCV, on se rappelle, c'était ce truc du patronat.
L'Union des commerçants de la ville.
Ouais, c'est ça. De passer de 9 à 15 semaines pour les périodes hautes de modulation. Vous allez savoir ce que ça veut
c'est
dire.
C'est l'idée à Macron, ça, non?
Oui, de toute façon, oui. Où les magasins ouvrent plus de 10 heures par jour. Voilà. Bon, en gros, la CFDT n'a pas encore signé, mais heureusement, il lui reste quelques jours pour revenir à une attitude plus raisonnable.
Plus syndicale.
Chut, écoutez.
Et non, parce qu'on va rester un peu dans la thématique, et là, on va parler de sondage. Alors, d'après un sondage fait par Odoxa, qui a été commandé par le journal très très sérieux Le Parisien, on apprend qu'en France, les gens sont plutôt très favorables au travail le dimanche à 68% tout de même. Bon, on voit dans ce sondage qu'ils y mettent quelques petits bémols. Bon, par exemple, la loi sur le travail du dimanche banalise ce jour. Hein, ils trouvent que c'est pas génial à 73%. Et que quand même, ça risque de mettre la pression aux salariés à 61%. Bon, ce qui les empêche pas à 68% d'être pour, quand même. Mais un autre bénévole intéressant, c'est que 53% des personnes interrogées considèrent le dimanche comme un jour sacré. Donc en clair, faut pas y toucher et on ne doit pas travailler ce jour-là. Et oui, en clair, c'est un peu oui au travail du dimanche, mais voilà, pas pour moi. Pour 92% des gens, le dimanche, c'est fait pour se reposer et être en famille, en gros. 62% des sympathisants de gauche refusent le travail du dimanche pour soi et 43% pour les gens de droite. Et bon, en ce qui concerne l'ouverture des magasins le dimanche, parce que là le sondage il différencie le travail généralisé le dimanche et pour les magasins. Donc pour les magasins, c'est soutenu à 78% à droite et 58% à gauche. Bon, comme ça, c'est vrai que c'est assez simple. La vendeuse, elle va trimer tous les jours de la semaine, tandis que moi, sympathisant de gauche comme de droite, on pourra flâner tranquillement en ville et profiter de notre petit repos dominical peinard.
Ce serait même intéressant de savoir après le sondage entre droite et gauche pendant la période de Noël par rapport au dimanche. Je suis sûr que ça serait encore.
Ah, bah là, oui, je pense que c'est pas tout à fait pareil. Et puis bon, bah ouais, mais c'est ça. Puis dans quelques années, bah, quand la pilule du travail du dimanche sera passée, ce sera sûrement à leur tour de se mettre au turbin 7 jours sur 7. Et quand ils protesteront, les autres gueuleront. Bah quoi, nous aussi, on bosse le dimanche. Et à côté de ça, bah, Macron et ses potes se frottent bien les mains. Et on continue un peu dans les sondages de merde. Alors, je vais pas vous parler du sondage démocratique qui a élu Wauquiez président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais d'un vote pas beaucoup moins sérieux sur le journal en ligne Lyon-Mag qui a élu Philippe Barbarin lyonnais de l'année 2015. Alors, Philippe Barbarin, il s'agit bien du cardinal Barbarin. Celui-là même qui a déclaré, je cite, le plus grand drame que vit la France aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait 200 000 petits Français qui meurent. Alors là, on ne parle pas d'un génocide, c'était le 25 décembre 2013, mais bien de l'avortement. Et au sujet du mariage homosexuel, je recite, parce que, accrochez-vous, hein, parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour, peut-être, je ne sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera.
Voilà. Il est bon, lui, hein.
Ah oui.
Ouais. Ouais, moi, c'est un champion, je pense.
Ah ouais, c'est peut-être pour ça que les gens le gardent, pour continuer d'avoir des déclarations un peu chocs comme ça. Non.
Il a été élu quoi alors ?
Il a été élu alors par le
Best
journal
Lyon, quoi. Le meilleur de Lyon.
C'est ouais, ça, c'est ça. Le meilleur Lyonnais de l'année 2015. Ça donne pas envie de déménager ?
Ça donne envie d'arrêter les sondages.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on est lyonnais ? Je crois pas. Non, non. On habite. On vient juste de temps en temps, une fois de temps en temps, faire les infos et tout ça.
Alors, deux anciens agents de sécurité de l'aéroport d'Orly, qui sont musulmans tous les deux, reprochent à la société Securitas de les avoir foutus à la porte à cause de leur barbe. Ce que, bien sûr, le patron de Securitas, le patron de la filiale française de Securitas, nie. Donc, lors d'une rencontre aujourd'hui au cabinet de l'avocat d'un des deux, alors Bachir, qui a demandé à ce que son identité complète ne soit pas publiée, assure que sa courte barbe noire lui valait de toute façon de petites, c'est ce que lui appelle de petites piqûres de rappel, qu'on pourrait appeler autrement des remarques à la con, du type « si vous voulez, je vous offre une tondeuse », tout ça dans le cadre du boulot. Le 24 novembre dernier, sa hiérarchie lui a tout d'un coup, alors qu'il venait bosser normalement, refusé l'accès à son travail donc contrôle des passagers avant embarquement, portique, scanner, palpation, fouille de bagages, etc. Et puis ensuite, il a reçu un courrier qui lui reprochait de n'avoir pas respecté le référentiel vestimentaire. Et en l'occurrence, ouvrez les guillemets, barbe, bouc ou moustache court, taillée, soignée et entretenue. C'est-à-dire que sa barbe n'était pas assez courte ni ou assez entretenue, on ne sait pas exactement.
3 jours max.
Ouais, ça doit être ça. Alors, Bachir a ensuite été licencié pour avoir enfreint ce règlement intérieur et pour d'autres motifs qui lui sont reprochés, en tout cas bavardage, retard et absence. Bon, en tout cas, lui, il a plutôt porté plainte pour discrimination. Un autre ex-salarié de Securitas, Béchir, alors là, on ne sait pas si c'est le vrai prénom ou pas. En tout cas, lui, il a été licencié en juin dernier, donc c'était bien avant les attentats de novembre, en raison d'une inaptitude médicale liée à une hernie discale. Mais lui soupçonne quand même aussi son ancien employeur de l'avoir en réalité poussé vers la sortie à cause de sa barbe. Et il attaque aussi au prud'homme. Et il faut quand même dire que lui, il était plutôt chef d'équipe chez Securitas. Et en tout cas, ce que lui affirme, hein, même s'il n'y a pas de truc écrit pour le prouver, c'est quand même qu'on lui avait demandé de surveiller les salariés musulmans pour faire des petits rapports pour dire s'ils faisaient leurs prières pendant les pauses.
te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je dégueule les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine à expulser. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va commencer cette rubrique en parlant de Frontex. Frontex, les frontières extérieures de l'Europe, la police de l'UE, qui peut-être va avoir encore plus de pouvoir et de budget. En gros, il y a la proposition de la Commission européenne discuter pour transformer Frontex en un corps européen commun de garde-frontières et de garde-côtes qui pourrait être déployé en cas d'urgence, même sans l'accord du pays concerné. Ça a été largement salué hier à l'Assemblée européenne. Alors, la gestion des frontières extérieures de l'UE devrait être régie par le principe d'intérêt commun, disent-ils, et celui de responsabilité partagée entre les États membres et l'Union européenne, a déclaré la Commission. Ajoutant même que sécuriser et protéger de manière efficace ces frontières est devenu essentiel pour maintenir la libre circulation dans l'espace Schengen. En gros, il faudrait mieux que personne ne rentre dans notre citadelle pour qu'on puisse faire notre mayonnaise un peu tranquille. La Commission a également proposé la création d'un, je cite entre guillemets, bureau européen pour le retour. Alors ça fait un peu peur. Bureau européen pour le retour au sein de cette nouvelle agence. Dans les situations d'urgence, des équipes d'intervention en charge de retour rapide, ils insistent sur le mot rapide, pourraient être déployées soit à la demande d'un État membre ou par une décision de l'Union européenne. Ils ont soutenu l'idée de la gestion intégrée des frontières extérieures afin de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé, ils insistent sur le mot élevé, de sécurité intérieure. L'idée, c'est de pousser les États membres à transférer certaines responsabilités à l'Union afin de fournir plus de sécurité aux citoyens du cocon à l'intérieur. Ce qui pose bien sûr le problème des garanties concernant les droits fondamentaux et celui de la souveraineté nationale, bien entendu. Des députés ont affirmé que l'Union devrait avoir le droit d'agir lorsque les États membres ne demandent pas d'aide, surtout s'ils se révèlent incapables de protéger leurs frontières. Alors là, tout de suite, on pense un petit peu à un pays dont on a pas mal parlé à ce niveau-là. Je vous donne dans le mille. La Grèce.
La Grèce. Super.
Ah,
la Grèce.
Si, quand même. Ainsi donc, alors que Frontex a demandé 743 gardes frontières pour aider la Grèce à faire face à l'afflux actuel, Frontex n'en a obtenu que 447. Et il a fallu menacer Athènes d'une suspension de Schengen pour qu'enfin elle les accepte début décembre sur son sol. Et ça, l'Union européenne, eh ben ça, elle n'a pas kiffé. Bref, ça sent la bisbille un peu entre les sempiternelles divergences autour du fédéralisme européen et il y a fort à parier que les États s'accorderont sur une solution qui, quelle qu'elle soit, se fera contre l'intérêt des migrants et des demandeurs d'asile. Concrètement, avec ce plan dévoilé mardi, le personnel permanent de Frontex passerait de 402 à 1000 personnes et son budget de 238 à 322 millions d'euros. L'agence pourrait acquérir son propre équipement de surveillance des frontières et aurait accès aux images satellitaires de Copernicus, le programme européen de surveillance de la Terre. Surtout, elle disposerait d'une armée de réserve de 1500 gardes frontières et gardes-côtes mis à disposition directement par les États membres et mobilisables en 3 jours. Frontex pourrait adresser des recommandations et des offres d'assistance aux pays qui ont des problèmes. On renforcerait donc encore un peu plus son rôle de super shérif de l'Occident et les vaches seront bien gardées.
La Turquie a arrêté, maltraité, expulsé vers leur pays d'origine de nombreux réfugiés syriens et irakiens, c'est-à-dire des gens qui viennent de chez Daesh, et ça depuis le mois de septembre. C'est ce qu'on peut lire dans un rapport qui a été publié aujourd'hui par Amnesty International, à la veille d'un nouveau sommet sur la crise migratoire à Bruxelles. en parallèle aux discussions sur les migrations entre l'UE et la Turquie, le gouvernement d'Ankara a interpellé et placé en détention de très nombreux, c'est entre guillemets, hein, c'est ce qui est écrit dans le rapport, de très nombreux, peut-être des centaines de réfugiés et demandeurs d'asile. Les autorités turques ont immédiatement démenti ces allégations aujourd'hui, assurant que la politique de porte ouverte adoptée depuis le début du conflit syrien restait de mise, mais Amnesty continue en disant certains réfugiés ont rapporté avoir été enchaînés, battus, transportés de force dans le pays qu'ils avaient fui. Amnesty assure ça sur la foi de nombreux témoignages et dénonce une violation directe du droit international. Depuis la signature le mois dernier d'un accord entre la Turquie et l'Union européenne qui prévoyait une aide financière européenne de 3 milliards d'euros en échange du fait que la Turquie contrôle mieux ses frontières, eh ben la Turquie a interpellé des milliers de candidats à l'exil. Je veux dire, l'accord a été signé et dans les 24 heures qui suivaient, il y a eu des centaines, voire des milliers de personnes qui sont retrouvées sous les verrous en une seconde, quoi. Alors le responsable d'Amnesty pour l'Europe et l'Asie centrale, commente en engageant la Turquie comme gardienne de l'Europe dans la crise des réfugiés, l'Union européenne risque d'ignorer et désormais d'encourager de graves violations des droits de l'homme. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait neuf, mais c'est toujours bon que des gens le rappellent.
C'est pas comme s'il n'y avait que la Turquie en plus.
Et ça, ça s'appelle l'externalisation du contrôle des frontières. Et il y a notamment la campagne Frontexit, que tu dois connaître, qui essayait de dénoncer justement la mainmise de Frontex sur ces questions-là, quoi. Et l'externalisation des frontières, c'est vraiment de dire ça. Donc moi, je suis dans une forteresse en Europe, je donne de l'argent à des pays tiers et ils se démerdent.
Voilà. Oui, c'est ça, parce que là, aujourd'hui, on parle de la Turquie parce qu'il y a ce rapport d'Amnesty, voilà. Mais il y a un mois ou quelque chose comme ça, il y a eu ce sommet à Malte entre la Turquie et les pays africains, où pareil, entre l'Europe et un certain nombre de pays africains, où l'Europe a aussi offert de la thune à un certain nombre de pays africains pour que ça soit eux qui gardent les frontières extérieures de l'Europe.
Notamment les pays du Maghreb via les accords commerciaux euromèdes. Enfin, à chaque fois, c'est des histoires et d'argent et de contrôle extérieur. Et notamment, du coup, ce qui fait qu'il y a des gigantesques centres de rétention au milieu du désert marocain, algérien et un petit peu partout à l'Afrique du Nord.
Ça mérite d'être répété parce que c'est assez mal connu et c'est purement odieux.
Et que, du coup, dans la mesure où c'est des flics marocains et turcs qui explosent les gens, qui les abandonnent dans le désert, aussi ça a été à une époque il y avait eu ça au Maroc là de bus qui avaient pris des migrants, qui les avaient emmenés au milieu du désert, qui les avaient lâchés et qui étaient repartis. Et ben dans la mesure où de toute façon ces gens-là ne sont pas européens, on s'attend pas à ce qu'ils respectent les droits humains, vu qu'ils l'ont jamais fait, ça surprend personne et l'Europe garde les mains propres.
Exactement.
Et quelques news de Calais, justement, puisque on pourrait donner plein d'exemples partout, dans tout l'ensemble de l'Europe, il se passe les mêmes choses, et qu'on a choisi depuis plusieurs années de faire aussi des focus sur Calais pour essayer de comprendre une situation particulière au nord de la France. Donc là, ce qui se passe, c'est depuis le 22 septembre dernier, c'est-à-dire depuis le lendemain de l'évacuation des derniers campements d'exilés situés dans le centre-ville de Calais, le bidonville où ont été regroupés par la force la plupart des exilés présents dans le Calaisie est bombardé de manière de plus en plus fréquente par des grenades lacrymogènes lancées par la police depuis la rocade d'accès au port. Rappelons que c'est un bidonville d'État. En général, qu'est-ce qui se passe ? Donc, la police éloigne les exilés qui tentent de monter dans des camions. Ça, ils le font à coups de gaz et de flashball et de matraque. Puis, les flics continuent à lancer des grenades sur le bidonville et sur les personnes qui l'habitent. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Et bien là, en ce moment, ils continuent. Souvent, les grenades sont tirées loin dans le bidonville et les nuages de gaz sont si denses et agressifs que tout le monde doit partir. Souvent aussi, les toits des abris en bois prennent feu lorsque les grenades lacrymogènes tombent dessus. Et des personnes aussi, souvent, font des malaises et s'évanouissent à cause des gaz. Et les balles de flashball sont aussi tirées donc sur les personnes et sur les abris où les personnes dorment. Il n'y a aucun besoin ou aucune justification à cela, bien évidemment, à part que ces personnes sont des migrants. Une pétition donc a été lancée pour faire cesser ces gazages par les habitantes du bidonville. Et oui, parce que les exilés effectivement s'organisent et se révoltent contre, contre ces agressions de la police. Et je le dis d'une manière ironique comme ça, parce que ce qu'on voit en fait, c'est que les autorités donnent l'image des pauvres victimes incapables de s'organiser, alors qu'on sait très bien, c'est des personnes qui savent très bien s'organiser, qui savent faire des manifs, des pétitions et vivre et tout ça, et que les autorités les enferment trop dans une petite boîte victimisante. Et sinon, un autre truc, c'est qu'un militant de No Border est passé en procès lundi. Il était accusé, il est toujours, d'avoir fomenté des émeutes et d'y avoir participé, et désigné comme responsable des affrontements qui ont eu lieu autour de la rocade d'accès au port et du bidonville de Calais, donc au début du mois de novembre. Donc c'est un peu la situation, là je parle, où il y a vraiment énormément d'agressions des flics. Et suite à ces trois nuits d'émeutes et d'affrontements avec les flics, les autorités avaient mis en scène un coupable désigné, c'était l'ultra-gauche. Et donc l'ultra-gauche, No Border, des bénévoles britanniques qui avaient été violemment arrêtés à l'intérieur du bidonville, puis relâchés. Et le 5 décembre, c'était, alors que les choses s'étaient plutôt redétendues à ce moment-là, un militant avait été arrêté en ville devant un local associatif. Vous voyez, il était sorti fumer une clope et bam, il s'est fait arrêter. Voilà. Donc ça, on va pas avoir le temps parce qu'il est moins 10 et que l'interview dure 17 minutes. Mais vous pouvez donc sur les audioblogs de Arte, l'auteur c'est Passeur d'Hospitalité au pluriel, qui est allé à la rencontre de deux militants du mouvement No Border, qui donnent leur point de vue sur la situation à Calais et aussi sur l'engagement de ce réseau-là pour démystifier ce que les médias racontent. Et pour finir, je rappelle que là on parle, pas souvent, mais là on parle de militants blancs, mais je rappelle bien que tous les jours, des migrantes à Calais se font tabasser par les flics, se font mettre en centre de rétention, ne mangent pas à leur faim, ont froid. Bref, ça c'est leur situation, parce que l'État ne prend pas ses responsabilités par rapport au fait de devoir héberger des personnes en demande d'asile.
Et bon, fini ce qu'il y a de l'info,
on arrive à la fin.
Tout à fait. Il y a une petite, un petit jingle d'agenda que je pourrais passer si vous voulez.
Allez, vas-y.
Allez. Vas-y.
Cette semaine, le café brunch se transforme un peu. Ce sera un café chapati party. Ça va se passer ce vendredi 18 décembre et les horaires, ce sera seulement de 13h à 23h. Ce sera surtout un after de la soirée Hack My Bonnie qui nous pirate un lieu pour l'occasion. Autant vous dire qu'on va être un peu crevé. Notre chef cuistot sera pas là, alors on a décidé de simplifier les menus. Ce sera sandwich chapati pour tout le monde, avec des pommes de terre sautées. On pourra jouer à des jeux toute l'après-midi. Et puis toujours, à 17h, l'écoute collective de l'émission de radio On n'est pas des cadeaux sur Radio Canu, où elles nous parleront de Saïd Bouamama. Et puis le soir, soirée, lecture de poèmes, contes, nouvelles, histoires qui font peur, le tout au coin du chauffage. Alors apportez vos bouquins et vos bouillottes.
Et je n'ai pas précisé au départ, mais c'est en non-mixité femme, Gwyn et trans. Et ça se passe donc au local féministe de la Guillotière, 8 rue de la Victoire.
Voilà, c'est fini pour ce Canu Info. On vous laisse avec Idée Noire et son agenda. Et on se retrouve
la semaine prochaine
sur Radio Canu.
Et Idée Noire et son agenda, c'est quand même plutôt dans 6 minutes si tout va bien. Entre-temps, un petit peu de...
Bande.
C'est ça, un petit peu de musique automatique de la radio.
Merci de nous avoir écoutés.
Et bien, bonne semaine à vous, au revoir.
Au revoir.
T'ont emmené, eux ils divisent pour mieux régner. Nos libertés s'effacent pour que le dictat fasse son entrée. On recule par manque de courage ou manque d'intérêt.